L'homme sécrète son espace dans ce qu'il sécrète. Il crée dans le fond une sorte de seconde nature qui a des temporalités différentes.
Le mot géographie, il a plus de 20 siècles.
Durant des siècles, ça a été un savoir politique que les géographes, en devenant universitaires, ont un peu trop oublié.
Il y a une chose qui est propre à la géographie, c'est qu'on faisait moitié géographie physique, moitié géographie humaine.
Nos géographies, Dominique Rousset.
Bonsoir à tous, nous parlons du Festival de Géographie 2020, c'est la 31e édition. Et ce sera à Saint-Dié-les-Vosges les 2-3 octobre, sauf nouvel incident. Un festival complet si l'on accepte l'absence du pays initialement invité, le Portugal, mais il sera invité je crois l'an prochain. Reprendre la vie, disent ces organisateurs de ce festival, c'est aussi reprendre notre ouverture sur le monde avec un thème cette année. Ce sera autour des climats. France Culture est partenaire du Festival de Saint-Dié dans nos géographies, donc nous proposons deux émissions pour accompagner les travaux qui vont être présentés sur place. Jeudi prochain, le 1er octobre, à l'horizon des migrations, le lien sera certainement fait avec les enjeux liés au réchauffement climatique. Et ce soir, une plongée dans les effets et les conséquences de la crise sanitaire autour d'une initiative originale, une sélection de textes écrits dans l'urgence sur le vif de l'actualité. Pas un recueil d'articles scientifiques longuement mûris, mais une pensée en cheminement, insistent les auteurs, avec des hypothèses, des pistes, des fils à tirer pour mieux comprendre ces moments exceptionnels que vit la planète entière, la pandémie de Covid-19, regard croisé de géographes. Bonsoir à Catherine Biagi et Emmanuel Vigneron. Et Hervé Thierry. Catherine Biagi, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Emmanuel Vigneron, que nous saluons, il est à France Bleu, héros en duplex avec nous, professeur d'aménagement du territoire, de géographie de la santé, donc à Montpellier. Et Hervé Thierry, directeur de recherche émérite CNRS, professeur également à l'université de São Paulo, on le verra tout à l'heure, puisqu'il va nous parler du Brésil. Écoutez ceci.
On nous l'avait cependant annoncé bien longtemps à l'avance. On nous avait fait suivre sur la carte sa marche rapide et menaçante. Le fléau voyageur n'était plus séparé de nous que par cette mer étroite qui nous ramène et nous remporte avec la mobilité de ses flots, nos rois rétablis ou déchus. Et pourtant, ce voisinage nous inquiétait moins que ne l'avaient d'abord fait les récits venus des pays lointains, doublement terribles par la distance et par la nouveauté. Tout notre effroi s'était usé sur les premières descriptions de ces ravages, sur les premiers dénombrements de ces victimes. Car le Parisien ne peut pas avoir peur longtemps du mal qu'il ne voit pas, lui qui s'habitue si facilement à ses misères. Et puis, quoi qu'on veuille lui dire, il a foi dans la salubrité de sa ville natale, dans l'air suave et pur que l'on respire depuis l'Estrapade jusqu'à la rue du Rocher, dans la limpidité des eaux que roule la Seine enflée par d'innombrables égouts, dans les émanations bienfaisantes des ruisseaux qui parcourent nos rues. Comme l'épidémie se faisait attendre, il s'est imaginé qu'elle reculait devant nos calembours, nos caricatures et nos patrouilles. Et déjà, il l'avait oublié aussi complètement qu'un enthousiasme de l'année précédente, une émeute du mois dernier et un scandale de la veille. Rien n'avait donc été dérangé dans notre vie et dans nos habitudes.
Un texte de 1832, extrait de Paris ou le livre des 101, le choléra morbus à Paris, par un certain Anaïs Bazin, historien, homme de lettres. Vous le connaissiez les uns les autres ?
Non,
ce texte vous surprend. On a voulu ouvrir avec celui-ci à la fois pour l'effet que peut faire l'arrivée d'une épidémie sur une ville. En l'occurrence, il s'agissait d'un portrait de Paris, avec pas mal d'humour après dans la suite de ce texte. Catherine Biagi, entrée en matière comme une autre sur ce travail, ce manque de recul que nous avons encore, bien sûr, sur l'épidémie de Covid-19, et donc sur ce projet que vous avez eu collectivement, je l'ai annoncé un peu à vif, à chaud, ce qui n'est pas forcément dans l'habitude d'un chercheur. Complètement. C'est parti du sentiment que cette épidémie, c'était un fait géographique absolu, mais qu'il fallait, pour le démontrer, l'expliquer. Ça allait de soi pour les géographes, Hervé Théry, Emmanuel Vigneron et d'autres, qui ont rejoint l'équipe des auteurs, mais il fallait le rendre explicite. Et pour reprendre d'ailleurs le titre d'un article de Michel Lussault, dans une revue, il a écrit « Le monde du virus, une performance géographique ». C'est bien là ce qui résume l'intuition. L'intuition que la géographie et les analyses des géographes, elles portaient avec leurs outils intellectuels, leurs concepts, leurs grilles d'analyse, elles portaient des clés de lecture et des clés d'explication de ce qui nous arrivait et de ce pourquoi nous étions tous confinés. Parmi, je prends simplement trois mots, comme pour Allez-y. Illustrer ce que je viens de dire. Trois mots qui sont des mots dans l'univers des géographes. C'est le mot de distance, le mot de densité et le mot de confinement. Ce sont trois mots éminemment géographiques qui étaient martelés par les médias et par les discours politiques. Distance, c'est le concept central des géographes. Pas seulement une mesure mathématique de l'intervalle entre un point A et un point B qu'on va exprimer en mètres ou en kilomètres, mais aussi une distance avec le temps, une distance temporelle, une distance même par le coup, qui permet de relativiser le proche et le lointain. Ça, c'est le premier élément. Et la pandémie, dans un monde où nous essayons d'effacer la distance, de faire que l'on connecte des lieux qui sont éloignés les uns des autres, eh bien la pandémie remettait de la distance, et y compris de la distance dans le quotidien. C'est la fameuse distanciation. Alors on a dit
on ce
vilain
un
mot
spécial,
de distanciation
oui.
sociale, oui. Et Jean-Christophe Gay, l'un des auteurs, revient là-dessus. Donc la distance qui prend à contre-courant tout ce que les géographes et tout ce que les sociétés essayaient d'effacer. Le confinement, l'étymologie du confinement, qu'est-ce que c'est ? C'est la finitude, ce sont les limites, les frontières. Et enfin, la densité, que n'entend-on pas parler ? Des zones denses, des zones de faible densité, des mouvements entre les deux, voire des jauges dans les salles ou dans les espaces clos, voire des plages dynamiques et autres.
Alors, effectivement, tous ces termes que nous allons retrouver et que vous avez fait rédiger par vos différents auteurs, vous en avez déjà cité deux, nous en avons avec nous aussi, donc Hervé Théry et Emmanuel Vigneron. Au fond, la Covid-19, c'est pour ça que c'était très intéressant de vous entendre parler à tous ceux qui ne sont pas géographes précisément. C'est à la fois la contraction de l'habité, on a quand même confiné près de 5 milliards d'habitants. Le renforcement des frontières, on va en parler, c'est aussi un article contenu dans votre recueil de Michel Fouché. Les mobilités humaines, bien entendu, tout d'un coup il n'en était plus question. C'est un révélateur très brutal également des inégalités sociales, c'est vous qui allez nous en parler Hervé Théry. Plus généralement, on va y revenir pour le Brésil, mais c'est un des points les plus forts quand même qui est ressorti de tout cela.
Oui, tout à fait. Tout le monde n'est pas également victime ou n'est pas également menacé par le Covid. C'est un virus qui est nouveau pour tout le monde. Et en faisant un petit clin d'œil au Brésil, on est dans la même situation que les Indiens. Nous sommes tous des Indiens. Vous savez que les Indiens d'Amérique sont morts en masse parce qu'ils n'avaient aucune immunité par rapport à un nouveau virus. Ben, cette fois-ci, c'est l'humanité entière qui est face à ça. Mais face à cette menace qui est la même pour tout le monde, eh ben, il y a des pays, il y a des régions, il y a des quartiers, il y a des groupes sociaux qui sont plus ou moins victimes. Et à la surprise générale, c'est les pauvres qui trinquent. Les pauvres des pays pauvres, des quartiers pauvres. On a encore un exemple tout récent. On a reconfiné à Madrid exclusivement les quartiers populaires.
En tout début de semaine, oui, en effet. L'épidémie, en fait, c'est un révélateur de toute l'organisation de l'espace, ce que nous dit Catherine Biaggi, avec des interactions entre les territoires. Il y a quand même pas mal de surprises, vous dites les pauvres. Ça, je crois que c'est un phénomène qui n'est pas contestable, mais il y a quand même des surprises, on va s'en rendre compte, selon oui. les densités, selon surtout ce qui se passe sur chacun de ces territoires. Tout ce flux d'informations là que vous avez reçu au quotidien, Catherine Biaggi, il a quand même fallu un petit peu le canaliser. La question générale de la géographie, c'est où est-ce que ça se passe ? Là, c'est à la fois où, depuis quand et jusqu'à quand ?
Alors, on a introduit, effectivement, autour de cette question centrale de la géographie du où, on a introduit de la temporalité. Et Emmanuel Vigneron a mis en perspective, enfin, il le dira lui-même, et il a mis en perspective également ses temporalités. Et comme vous l'avez très bien introduit dans le début de cette émission, ce n'est pas la première épidémie, l'humanité est confrontée
à cela depuis sa naissance. Hein. Donc, de la temporalité et des échelles. La géographie, c'est du temps aussi, il n'y a pas que l'histoire, hein. C'est du temps et c'est aussi de l'espace, ce sont des échelles spatiales. Donc, l'idée, c'est qu'on essaie de se trouver des fils directeurs pour organiser et structurer des productions dont la mission première était d'expliquer, de donner des clés de lecture, d'explication qui offrent une perspective rassurante. Et puis, l'outil, il faut quand même le dire, cet outil que nous avons, qui est tenu par le partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et l'École normale supérieure de Lyon, à travers le site Géoconfluence, mettant en perspective la fameuse confluence lyonnaise, eh bien, ce site, il est un outil de formation pour les professeurs. Les professeurs qui eux-mêmes étaient interrogés par leurs élèves à distance et qui devaient aussi donner des clés de lecture.
À quoi servent les épidémies anciennes, les peurs anciennes également, Emmanuel Vigneron ? C'est aussi un outil pour le géographe. On revient tout le temps à des pestes très anciennes, hein, certaines même avant Jésus-Christ, la peste d'Athènes, je crois, et puis d'autres qui ont sévi en Europe. En même temps, il nous semble qu'on parle, nous, d'épidémie beaucoup plus proche, celle qui a vraiment marqué les esprits. Et je parle plus de peste, d'ailleurs, que d'autres maladies. Pourquoi ? La peste noire, hein, celle du Moyen-Âge.
Bien sûr, le motif de ces articles dans Géoconfluence a d'abord été de répondre ou d'apporter du grain à moudre aux questions que ne pouvaient pas manquer de se poser les élèves de lycée, et partant aussi leurs maîtres. En gros, il y avait l'idée d'apporter des éléments d'information de manière extrêmement modeste. Et dès les premiers jours de l'épidémie, fin février, j'étais extrêmement surpris, moi qui baigne dans l'histoire des épidémies, dans la géographie des maladies épidémiques, etc., depuis 30 ou 40 ans, depuis tout jeune, donc j'ai été étonné du faible degré de connaissance historique de la plupart de nos contemporains, et donc de l'intérêt qu'il y avait à raconter du point de vue d'aujourd'hui, hein. Pas raconter une histoire qui a été puis qui ne serait plus, non, mais questionner l'histoire passée pour apporter des éléments de réponse par analogie avec des situations anciennes. Et de fait, l'épidémie que nous subissons interroge, mais très modestement, le lien de complémentarité entre histoire et géographie. Les analogies sont nombreuses et il ne sert à rien de déplorer la mortalité différentielle selon les classes sociales dans la Covid-19, parce que c'est de toute éternité que les épidémies ont frappé différemment les classes sociales qui composait les grands rassemblements humains. Dès que le capitalisme ou le pré-capitalisme est né avec la Pax Romana, eh ben, sous la peste Justinien, on remarque de grandes inégalités sociales. C'est vrai, évidemment, dans la grande épidémie qui court de 1348 au milieu du XVIIIe siècle. C'est vrai à Marseille en 1720, dans une réactivation de cette peste noire. C'est vrai à Paris en 1856, dans le choléra, un autre choléra que celui que vous avez évoqué de 1832, mais qui est très important pour des raisons de santé publique. Et c'est vrai aussi en 1918 et 19.
Avec la grippe espagnole.
Dans la grippe espagnole, on dit, il n'y a pas vraiment d'inégalité sociale de la mortalité. Les gens meurent partout, et notamment dans les beaux quartiers de Paris. Ah oui, mais le problème, c'est que c'est regarder l'écume des choses. Parce que si on gratte, on voit que ceux qui sont morts dans les beaux quartiers, c'était les bonnes et les chauffeurs de bagnoles des classes possédantes. Donc, au fond, inégalité sociale, oui, transposée. Et là, ça m'a fait penser qu'on était en présence d'un magnifique cas d'erreur écologique, et qu'on pouvait très bien faire comprendre à des gens qui n'ont pas une formation très poussée que c'est pas parce que deux choses sont au même moment, au même endroit, qu'elles sont nécessairement liées. C'est ce qu'on appelle l'erreur écologique en épidémiologie. Donc, au fond, il m'a semblé que l'épidémie contemporaine de Covid représentait une formidable leçon de géographie, et que on pourrait concevoir toute une formation à la géographie, à l'histoire, à partir de la lecture des épidémies. C'était aussi bien à tout prendre que l'histoire événementielle des rois de France. En fait, on pourrait écrire une histoire mondiale des épidémies selon les méthodes de l'histoire contemporaine. Enfin.
Et puis en parlant des quartiers riches, vous disiez, c'est vrai que c'était souvent les bonnes ou les chauffeurs, et déjà à l'époque, les riches s'enfuyaient aussi. Hein. Et ils avaient des lieux où se réfugier, on va en parler,
oui,
des
j'en
espaces
ai pas parlé,
ruraux.
J'en ai pas parlé, mais c'est évidemment très connu des villégiatures dans le théâtre de Goldoni, par exemple, qui se passe au 18e. Et c'est très vrai aussi de la Peste de Londres. Qui a pris la peine de lire ou de relire le journal de la Peste de Daniel Defoe, où il évoque bien cette mortalité différentielle selon les classes sociales et le fait que les classes intermédiaires, celles qui ont un tout petit peu de sous, qui peuvent se payer un voyage, vont elles finir par errer dans des contrées qui ne veulent pas les recevoir. Quand les pauvres, eux, vont mourir en masse, on les compte même plus dans Londres, et que les riches ont pu partir dans leurs propriétés de campagne, à la périphérie de Londres.
Et on ne parle pas du 21e, hein, ce stade, mais ça nous évoque quelques idées. Hervé Théry.
Je pense qu'il y a effectivement une magnifique leçon de géographie, bon, qui se paye un peu cher, mais effectivement, c'est l'occasion de tirer le fil. Et c'est la contribution que nous autres géographes pouvons apporter à l'effort des scientifiques du monde entier. On ne peut pas inventer des vaccins. On peut pas faire, mais c'est notre contribution de voir comment ça se passe, comment ça peut affecter l'avenir, ça on en parlera tout à l'heure, et nous avons la particularité avec deux autres corporations de penser spatialement. Les militaires, les épidémiologistes et nous pensons spatialement. Et le logiciel de cartographie dont je me sers tous les jours et que j'ai contribué à développer, il y a dedans une partie qui a été développée à la demande des épidémiologistes, exprès pour observer le temps et l'espace en même temps, c'est-à-dire les phénomènes de diffusion. Ça pourrait être un quatrième mot ajouté aux trois qu'a donné Catherine
Biaggi. Au vocabulaire
Biaggi tout à l'heure.
Que nous a donné Catherine Biaggi.
Donc on a effectivement la particularité, la curiosité de regarder comment les choses se passent dans l'espace et dans le temps en même temps. Tout ça, c'est ce qui nous intéresse. Et c'est ces ondes-là, c'est est-ce qu'on est dans une deuxième vague ou pas, tout ça, c'est lieu et ce temps que nous regardons de plus près.
On en a aussi des traces jusqu'à aujourd'hui, Emmanuel Vigneron, pour poursuivre avec cette histoire. Beaucoup d'empreintes dans le paysage, il y en a de très célèbres, hein, le calvaire de Plougastel, là je crois qu'est très très visité, la fameuse croix de la peste. Attention à ne pas confondre aussi avec les chapelles qui, elles, viennent plutôt du monde catholique, mais elles existaient également pour conjurer la peste, je crois, hein, ou pour remercier parce que la peste n'était pas passée.
Oui, bien sûr. Il fut un temps où la religion chrétienne a occupé l'essentiel de l'activité réflexive et créative des hommes et des femmes autour des épidémies qui ont vraiment occupé le devant de la scène. Mais au fond, jusque dans les années 60, enfin dans les années 60, il y a les dernières épidémies de polio dans la région méridionale, en Camargue par exemple. C'était très présent. Ça s'est effacé, nos enfants aujourd'hui connaissent plus rien des épidémies. Mais je crois qu'il est bon de leur faire redécouvrir ces traces, de partir à l'école en disant « repérons dans les paysages qui nous entourent les traces des épidémies passées ». Elles sont légion, j'en ai mises quelques-unes, mais quelques-unes sur des milliers et des milliers dans les articles de Géoconfluence.
Catherine Biaggi, sur ce point.
Oui, peut-être revenir sur cette mise à distance dans l'empan historique, dans les durées. Qu'est-ce qui fait aussi que cette épidémie, au XXIe siècle, elle est singulière? C'est dans la rapidité de sa diffusion, par exemple, et dans son extension à l'humanité, tout entière ou presque. Dans le projet, dans ce dossier, l'objectif que l'on vise aussi, c'est de dessiner cette singularité à la fois révélatrice et conséquence de l'organisation du monde actuel et de son fonctionnement, de ses dissymétries et de ses inégalités. Et cette organisation, il importe de la connaître, il importe d'en cerner les mécanismes pour comprendre justement cette diffusion. C'est tout à fait vrai, Hervé Théry, le terme de diffusion, c'est un terme absolument central qui relie le temps et l'espace. Et d'ailleurs, il y a aussi ce qui nous emmène vers le futur, la prévision de ces épidémies comme risque. risques. Michel Fouché, dans un de ses articles sur les frontières, dans ce dossier, et dans une de ses publications ensuite, évoque le fait qu'elle avait été prévue dans les livres blancs de la sécurité et de la défense nationale de 2008 et de 2013. Effectivement, j'ai repris celui de 2008 et puis celui de 2013, qui avait clairement identifié la vulnérabilité des sociétés à ces menaces épidémiques. Et dans les clés de lecture que ces livres blancs, donc français, de la défense et de la sécurité nationale identifient, eh bien tout est identifié. Les zones de densité, les mégapoles, les flux, les réseaux qui permettent les circulations, finalement, tout y est et tout est écrit en 2008.
La peste est de retour chez nous, il faut brûler la ville. La mort à l'heure au rendez-vous, barricadez vos filles. La peste est de retour chez nous, je vous salue Marie. J'ai confié mes clés à un fou sans garder de copie. La peste ici, que peut-il arriver de pire? Partout son goût dans l'eau des puits, dans l'air que l'on respire. La peste au loin, je rêve d'un bain dans le soleil couchant. Et même l'enfer doit être bien, si loin de tous ces gens. Aime ton prochain comme toi-même. Mais aime-le de loin. Aime ton prochain comme toi-même. Mais aime-le de loin. Cette blessure, n'empêcheront pas que les rats grouillent au milieu des décombres. Nos pères succombent au sein d'un monde quand leur cœur ils détestent. D'autres s'emploient tant bien que mal à survivre à la peste. Aime ton prochain comme toi-même. Mais aime-le de loin.
Vous écoutez Nos Géographies. Nous sommes ce soir en compagnie de Catherine Biagi, Emmanuel Vigneron, Hervé Théry. Nous parlons des géographes et de la crise sanitaire Covid-19, avec ses liens bien sûr avec l'histoire, le paysage et l'espace. Et à l'instant, nous écoutons la maison Tellier. Les épidémies, je rappelle peut-être l'étymologie de ce terme, épi, c'est au-dessus, et démos bien sûr le peuple. Et cela veut dire qu'une épidémie, ça s'abat tout d'un coup, ça tombe sur nos têtes assez brutalement. Peut-être l'occasion de revenir encore là sur d'autres travaux. Un point que j'ai trouvé très intéressant, par exemple, 2002, l'épidémie de SARS-CoV déjà, qui était née en Chine, s'est répandue dans les 29 autres pays qui étaient en relation étroite avec la Chine. Autre exemple, 2012 en Arabie Saoudite, un autre virus dont on a peut-être moins parlé, pourtant une mortalité très élevée. Là encore, une vingtaine de pays signalés. Et je ne sais plus qui l'écrit chez vous, vous allez peut-être me le dire, citer ces pays, c'est comme dessiner au tableau une carte des liaisons aériennes les plus soutenues entre les pays du Golfe et le reste du monde, c'est ça, hein ?
C'est Emmanuel Vigneron qui le dit.
Voilà, les insiders de la mondialisation, vous les appelez Emmanuel Vigneron. Et on peut le retrouver partout, ceci, ces lignes aériennes.
On peut le retrouver partout, à toutes les échelles, si on regarde évidemment la progression de l'épidémie en France. Elle est quand même assise sur les points les synapses, comme on dit, les lieux d'échange de la France avec le reste du monde, l'aéroport de Mulhouse-Bâle, l'aéroport de Strasbourg, évidemment Paris, l'épidémie, elle a suivi un chemin, n'arrivant que tardivement à l'ouest atlantique, qui est resté plus en marge, et a fortiori à la Lozère, à la Creuse ou ailleurs. Et a fortiori, et c'est mon collègue Jean-Christophe Gay qui parle bien des dom-toms, bon, mais dans les articles qu'il a fait pour la revue Géoconfluence, il n'y avait pas de mort à Tahiti. Ben maintenant, il y en a. Par exemple, moi je me souviens, j'ai publié à 30 ans une histoire de la grippe espagnole à Tahiti. C'était dans une de mes thèses, la thèse d'histoire. Et on voit que ce qui s'est passé en novembre-décembre 1919, c'est très exactement ce qui pourrait se passer demain. Avec un premier pic à la fin de l'hiver précédent, puis une évolution qui décroît avec les premières chaleurs de l'été, et puis une reprise très virulente de l'épidémie à l'automne 19. C'est le problème de la grippe espagnole, et c'est là qu'elle a fait le plus de morts. Donc il y a comme ça plein d'enseignements à tirer, d'observations passées ou d'observations localisées, contemporaines. Comment l'épidémie s'est-elle répandue à Tahiti en 1919? Ça peut intéresser l'épidémiologie de maladies épidémiques dans les dom-toms, qui sont longtemps protégés, et puis le jour où la digue saute, ou un bateau à l'époque, ou un avion aujourd'hui, arrive avec un trop grand nombre de cas, eh ben, c'est la flambée. Et parfois la décimation de la population.
Hervé Derry, je voudrais qu'on s'arrête avec vous sur l'exemple du Brésil. Je l'ai dit, vous enseignez à São Paulo, donc je suppose que vous allez très souvent dans ce pays que vous connaissez bien. L'épidémie y est arrivée un peu plus tard que chez nous, autour de, je crois, de mai, à peu près, avril-mai.
Il y avait déjà des cas en février avec des gens qui revenaient en avion d'Asie et d'Europe.
Et qui l'ont apporté, selon vous. Des chiffres très probablement sous-estimés, on peut comprendre pourquoi, puisque la population, bien sûr, vit beaucoup dans des travaux de manière informelle déjà, et puis ne fréquente peut-être pas beaucoup le système de santé, et que là où elle vit peut-être aussi, il y a bien peu d'établissements bien équipés. Mais ce que vous avez fait est très intéressant sur le Brésil. Vous êtes parti de l'analyse des cartes, et je crois qu'il nous faut parler de la méthode. C'est très intéressant parce que une carte du Brésil, on se la représente à peu près, les grands États, l'immense Amazonie, le sud-est, le nord-est, mais vous avez affiné ce travail de simple vision de la carte pour comprendre comment l'épidémie touchait tel ou tel territoire. Dites-nous comment.
Il n'y a pas grand-chose de moins radiophonique que la cartographie. Donc je vais
c'est pour ça, j'essaie de la décrire aussi.
Non, effectivement, ça fait partie des outils du géographe, et de surtout que maintenant, ça est quand même à la portée de tout le monde de faire des cartes. Et une des particularités du Brésil, c'est qu'il y a beaucoup de chiffres disponibles tout de suite sur Internet et gratuitement. C'est plutôt mieux, donc je sais que je peux vous donner les chiffres de l'épidémie tels qu'ils sont perçus, en tout cas là-bas, à aujourd'hui, si vous voulez. Et du coup, on s'est saisi de ça pour observer. Quand on a fait l'article dans Géoconfluence, c'était au début, mais j'ai encore fait une conférence hier soir en ligne pour l'université brésilienne, donc je suis ça au jour le jour, et c'est effectivement par les moyens de transport que ça s'est diffusé. C'est arrivé d'Europe et d'Asie par les avions. À Manaus, il y a des fortes liaisons avec l'Asie à cause de la zone franche, donc on sait comment le virus est arrivé, et dans les autres villes, c'est les avions. Et à partir de là, ça diffuse. Et dans la revue que j'ai fondée avec ma collègue et épouse, qui s'appelle Confin, donc on était tout préparé à être confiné, comme vous voyez, le confinement on connaît depuis longtemps. Et avant ça, je travaillais au GIP Reclus, donc entre le Reclus et le Confin, j'étais vraiment prédestiné. Et donc, on a trouvé des collègues qui nous ont envoyé des articles, un peu comme on a fait dans Géoconfluence, et des collègues de Manaus nous ont montré, avec des cartes aussi au jour le jour, que le virus a voyagé en bateau. Que l'Amazonie est immense et très peu peuplée, très peu de densité, mais le peu de population qu'il y a habite au bord des fleuves, de façon assez concentrée, et voyage en bateau. Ils ont fait une corrélation mathématique éclatante de rigueur et cartographie, c'est comme ça. Dans le même temps, des gens du Sud nous ont envoyé des choses en montrant que c'était les transports en bus qui avaient provoqué ça. Ils ont même proposé de rebaptiser le coronavirus coronavirus. Corona en portugais, ça veut dire faire du stop ou prendre quelqu'un en charge sur la route. Donc c'est un virus opportuniste qui a voyagé tantôt en avion, tantôt en bateau, tantôt. En fait, il suit les flux. Et c'est un autre lien avec la géographie. La géographie, on dit, elle est de moins en moins aréale et de plus en plus réticulaire. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est de moins en moins les surfaces et les airs, et de plus en plus les réseaux. Et bien là, on en a une magnifique démonstration. Effectivement, observer comment, par le passé, le virus voyageait dans les caravelles et par les trains. Aujourd'hui, il voyage de façon beaucoup plus mondiale, beaucoup plus rapide, par les avions. Et dans un pays géant comme le Brésil, on voit bien qu'il y a des rythmes. Et en faisant au moins une fois par semaine des cartes de diffusion au Brésil, j'ai bien vu le virus arriver dans les grandes villes, oui, se diffuser de quartier en quartier et de région en région.
Exemple intéressant, parce que quand je dis que vous avez travaillé ces cartes, ce que vous appelez l'anamorphose, c'est-à-dire, oui, en pointant un aspect, hein, pas sur, en vous intéressant moins à la partie visible, enfin en tout cas immédiatement visible, mais en pointant par exemple des caractéristiques statistiques, hein, de pauvreté, de circulation, vous venez de le dire. Vous avez trouvé par exemple une très forte parenté entre ce qui était basé sur les décès et ce qui est basé sur la répartition, nous revoilà dans la religion, des protestants pentecôtistes. Ça, alors, c'est extraordinaire. Par exemple, dans le sud-est, en particulier à São Paulo, ils sont très nombreux, mais c'est en Amazonie que leur proportion est la plus élevée.
Oui, en fait, c'est une intuition qu'on avait eue au moment de ce dossier. J'ai creusé ça après avec toute une batterie d'indicateurs dont je peux vous confirmer. On a fait un article dans la revue Confins sur les facteurs qui expliquent, en tout cas, qui coïncident avec ça. La première explication, c'est la pauvreté, moins d'hygiène, obligation de sortir pour gagner sa vie, etc. Et juste après, la religion.
La pauvreté, on peut expliquer, par, oui, exemple, que dans le Nord-Est, où la densité est forte en plus, oui, et la pauvreté est très répandue. Jusque-là,
et même à São Paulo, dans les quartiers pauvres, il y a des quartiers pauvres de 4,5 millions d'habitants qui ont besoin de sortir tous les jours pour gagner leur vie, donc ils n'ont pas le choix.
Mais l'Amazonie?
Alors l'Amazonie,
faible,
c'est
faible densité,
mais avec des gens qui voyagent de bateau en bateau. Et là, les missions étrangères de pentecôtistes ont eu beaucoup de succès dans les petits villages, et donc ils sont beaucoup plus pentecôtistes que les autres, beaucoup plus évangélicos. Donc j'ai rien contre les religions évangéliques, je le dis bien, donc on a fait ça avec beaucoup de précautions, mais il y a des faits objectifs. Et on a parlé tout à l'heure, Emmanuel Vigneron parlait de Mulhouse. On sait bien qu'en France, une grande partie de l'expansion est venue de rassemblements pentecôtistes à Mulhouse, où des gens sont venus de toute la France. Pendant 5 jours, ont chanté ensemble, se sont embrassés, se sont contaminés les uns les autres, et sont repartis dans toute la France, y compris en Guyane, et ont disséminé. En Corée, on a un autre exemple. Et au Brésil, on en est sûr aussi, puisque les églises pentecôtistes ont maintenu leur culte, où les gens sont très proches les uns des autres, s'embrassent copieusement, en vertu du fait qu'ils étaient protégés par Dieu, donc ils n'avaient pas besoin de se faire de soucis, que Dieu y pourvoirait, et que par ailleurs, en étant un tout petit peu mauvais esprit, les pasteurs avaient aucune envie de renoncer au rassemblement au cours desquels ils rassemblaient la dîme. Et donc, il y a des facteurs objectifs qui expliquent ça. Et par ailleurs, les évangéliques sont plutôt des gens pauvres. Auquel cas, on retombe sur la première dimension.
Après, voilà, on peut ajouter que leur président de la République
n'a pas fait grand-chose pour lutter contre. C'est le
ou en tout cas, lui-même est, je crois, de religion évangélique, non?
Non, il est catholique, mais il s'est fait quand même rebaptiser dans le Jourdain par un pasteur évangélique, histoire d'accaparer le vote.
Dieu reconnaîtra les siens. Voilà. Est-ce que le Brésil, pour vous, fait partie de ce qu'on a appelé un peu ironiquement l'alliance des autruches, les pays qui ne veulent pas trop voir?
Manifestement.
Mais les Brésiliens eux-mêmes réagissent.
Le Brésil, c'est un continent, il y a 27 États, il y a des gens qui pensent de façon différente, Dieu merci. Les gouverneurs d'État ont pris la lutte très au sérieux, dont celui de l'État de São Paulo, qui a même 40 millions d'habitants. Ce qui a fait du tort, c'est plutôt qu'on tire à Uadia. Le gouvernement fédéral, effectivement, est climato-sceptique et corona-sceptique. Il n'a rien fait de particulier. On a changé le ministre de la Santé plusieurs fois. Et résultat, on est à 135 000 morts aujourd'hui.
Catherine Biaggi, j'enchaîne cette situation dramatique du Brésil avec un phénomène plus large, la mondialisation. Vous avez évoqué un article de Michel Fouché, qui lui est spécialiste de géopolitique et contribue aussi à ce fameux numéro qui nous sert de base pour notre émission. Alors lui parle, et c'est assez intéressant, et c'est même très engagé, je trouve, comme position, d'une fonction protectrice de la frontière. Il dit qu'on revient au fond à ces frontières, puisque les pays, on le sait, ont réagi diversement, mais ont tenté de se protéger en fermant leurs frontières. Il ne le voit pas comme quelque chose de condamnable, bien au contraire. On pourrait développer un petit peu ce qu'il nous explique là. Je rappelle quand même que, je crois, plus de 110 pays dans le monde ont pris, dès le mois de mars, des mesures très drastiques de fermeture.
Oui, je ne veux pas trahir sa pensée ni parler à sa place.
Les circulations en avion dont nous venons de parler.
Effectivement, la pandémie, c'est une formidable manière de se rendre compte de ce qu'est la mondialisation et de la vivre. Le message que veut faire passer Michel Fouché, c'est que on a cru, Et on a fait en sorte que les frontières, tout à l'heure j'évoquais cette volonté farouche de réduire de la distance par l'abaissement des barrières, l'abaissement des frontières qui peut être avoir des aspects extrêmement positifs mais aussi extrêmement destructeurs si on pense à la mondialisation, enfin à la globalisation financière par exemple. Donc ce que veut dire Michel Fouché, c'est que ces frontières n'avaient pas disparu, mais que le rôle qu'elles jouent en temps de crise, que ce soit le terrorisme ou que ce soit une pandémie, alors elles se mettent à rejouer leur rôle essentiel et ils les comparent même à des masques protecteurs. Si on pouvait faire le parallèle entre le masque que nous portons et le masque protecteur qui est le rôle que peut jouer la frontière. Donc il en appelle en quelque sorte, dans le monde d'après, à retrouver des limites. La piste pour le monde d'après, c'est une manière de repenser la mondialisation qui aura des infléchissements à cette mondialisation et que cette mondialisation, elle peut trouver une sorte de régulation par des limites qui sont des frontières, par exemple des frontières politiques.
Et qui ont même une valeur symbolique, hein, je continue moi aussi à raconter son article, une distinction entre le dedans et le dehors, c'est un besoin que nous avons tous, une nécessité, il l'appelle même anthropologique, qui est fondatrice de toutes nos interactions. Il va jusqu'à citer la déesse du foyer, le dieu vagabond, Hestia et Hermès. Et au fond, il ajoute la surprise d'un retour des frontières, finalement, est à la mesure de la profondeur d'un refoulement, peut-être que c'est ce qui nous manquait.
Voilà, c'est-à-dire qu'on avait fait comme si elle n'existait plus. Et peut-être que leur exhumation brutale face à la crise de la pandémie fait qu'il faudra repenser cette ouverture et cette fermeture. Vous savez, les frontières, elles jouent un rôle de filtre en quelque sorte. Et c'est à ce rôle de filtre que Michel Fouché fait référence, c'est-à-dire qu'elles permettent de protéger en filtrant et elles permettent d'inscrire de la régulation. Si on reprend cette idée de repenser les limites, c'est dans la rue, c'est cette distance dont je parlais, cette distance de sécurité, comme Jean-Christophe Gay l'évoque, il vaudrait mieux parler de distance de sécurité plutôt que de distanciation sociale, quel affreux mot, quelle affreuse expression,
même physique,
ou physique, et on voit un mètre, deux mètres, et au niveau des États, ou des constructions interétatiques sont les frontières.
Au plan personnel, bien entendu, effectivement, Jean-Christophe Gay qui le développe, les masques. Emmanuel Vigneron, sur ce point, cette mondialisation mise à mal, et on va y revenir aussi sur la manière dont on a dirigé aussi, dont on a pu gérer ces questions-là.
La mondialisation, ou plus exactement la géographie de la mondialisation, nous permet de bien comprendre la marche des épidémies. Ce qui était vrai au début de l'ère chrétienne l'était encore en 1348 et l'est encore aujourd'hui. Ça se traduit d'abord par une accélération de la diffusion spatiale de ce qui est à considérer comme une innovation, qui est une épidémie. Et l'épidémie, elle va de plus en plus vite à se répandre à travers le monde. Monsieur Théry a fort bien évoqué ça, avec les bateaux qui sont des bateaux à moteur et qui sont plus des pirogues à rames, mais qui sont des pirogues à moteur. Enfin, les choses vont beaucoup plus vite, même à cette échelle locale là. Le speedboat sur les fleuves brésiliens ou guyanais va vite. Il a fallu 3 ans à l'épidémie cataclysmique de 1720 qui apparaît à Marseille. Il a fallu 3 ans pour que de Marseille, elle aille au nord de la France. Et à chaque fois, ça a été fait en empruntant des places de marché par lesquelles le négoce marseillais commerçait des indiennes, les tissus imprimés des indiennes qu'elle avait importés et qui étaient infectés. 3 ans. Cette fois-ci, l'épidémie qui est née, selon vraiment toute vraisemblance, à Wuhan, a atteint le monde et en 4 mois. En 4 mois, l'épidémie a fait le tour du monde. Il fallait beaucoup plus de temps avant. Je sais pas, enfin, si on regarde la peste de Justinien au 4e siècle, elle va mettre des années et des années à se répandre à travers l'Europe. En revanche, elle s'y installera très durablement, puisque cette épidémie, en fait, ne disparaît pas, la souche de la peste de Justinien ne disparaît pas avant le 18e siècle. La mondialisation, elle est partout à l'œuvre. D'autre part, il y a un truc qui est vraiment peut-être très intéressant, c'est essayer de comprendre pourquoi la mondialisation réunit plus particulièrement les ingrédients de l'épidémie. J'ai appelé ça comme ça, en disant, mais au fond, qu'est-ce que c'est qui fait une épidémie? Enfin, il y a comme une équation qu'on pourrait écrire. Pour qu'il y ait une épidémie aujourd'hui, il faut une forêt qui est riche en faune, notamment en faune aviaire et mammalienne, mammifère, du double point de vue de la variété et de la quantité. Ça, ces forêts riches en faune, aviaire et mammalienne, ça se rencontre dans les mondes tempérés et tropicaux. Il faut des concentrations humaines en périphérie de ces étendues forestières et, si possible, des concentrations humaines qui portent atteinte à la conservation de la nature en la détruisant et en l'ouvrant, en libérant en quelque sorte les animaux vecteurs et les virus qu'elle contient. Il faut encore d'autres choses, hein. Il faut de la déforestation et le maintien d'une consommation de viande de brousse. Alors ça, ça inquiète pour le futur de l'Afrique, par exemple. Ensuite, il faut des intensités d'échange avec le reste du monde. Eh ben, ces éléments-là, c'est égal à Asie tropicale. Donc il n'y a pas d'étonnement à ce que ce soit d'Asie tropicale que depuis les débuts de la mondialisation, mais en s'accélérant, partent l'essentiel des épidémies. Mais en revanche, demain, la concentration de forêts riches en faune aviaire et mammalienne, ça c'est en d'autres endroits du monde, en Amazonie comme en Afrique, la présence de concentrations humaines en périphérie de ces étendues forestières, eh ben, c'était pas trop l'Afrique et encore moins l'Amazonie, mais ça peut le devenir, et notamment en Afrique. La déforestation et la consommation de viande de brousse, c'est-à-dire le maintien d'un usage traditionnel des ressources de la forêt, d'une vie ouverte sur le monde extérieur, eh ben, ça se rencontrera de plus en plus en Afrique. Et l'intensité des échanges avec le reste du monde, pour l'instant, c'est limité à Abidjan, à Douala, à Dakar, mais ça risque d'être bien plus vrai demain, avec le développement de ports gigantesques à l'échelle du monde, comme Lagos, au Nigeria ou ailleurs.
Cette mondialisation, donc, effectivement, dont on peut attendre encore bien des dégâts si l'on vous suit, a en tout cas fait la preuve qu'elle n'était en rien, là je reprends encore un autre de vos articles dans ce document de Laurent Carroué, a fait la preuve qu'elle n'est en rien universelle et qu'elle est bien révélatrice des inégalités, nous l'avons déjà dit, mais là vraiment ça a été mis en évidence avec l'absence, ajoute-t-il, flagrante d'un leadership, puisque finalement tout le monde s'est trouvé assez désarmé devant, hein, qu'il s'agisse de la Chine ou des États-Unis, des puissances émergentes d'ailleurs, et même de l'Union européenne, voire même de l'Organisation mondiale de la santé. Juste d'un mot, les uns les autres. Catherine Biaggi.
Oui, mon collègue, hein, Laurent Carroué, éminent géographe, qui a contribué par un très bel article également, lui vraiment insiste sur cette hypermobilité qui est caractéristique de la mondialisation, l'une des caractéristiques, hein, une humanité qui est massivement urbaine aujourd'hui, hein, c'est avec ses villes et ses grandes métropoles hyper connectées, et une hypermobilité. Il développe notamment les aspects des mobilités touristiques, pas seulement, hein, mais les mobilités touristiques, ce tourisme de masse, ces déplacements aériens qui sont colossaux, puisqu'il évoque même, dans la masse des voyageurs aériens qui est considérable, au-delà de 4 milliards pour la seule année 2018, dont plus d'un tiers voyage en low cost. Donc interroge aussi, et ça c'est aussi la force de la géographie, d'interroger les modalités de cette hypermobilité. Et là, l'analyse géographique, elle est indispensable, parce que ce sont des interdépendances. Si on réfléchit un tout petit peu, et ceux qui crient haro contre l'hypermobilité et le tourisme de masse, quels sont les effets positifs aussi sur le plan économique des économies et des complémentarités économique. Autrement dit, rester en France, rester près de chez soi, local, c'est bien, mais la géographie aide aussi à mesurer les interactions qui se jouent avec ailleurs.
Thank you. da terra intocada, que só seja infectada por um samba vagabundo e do sol.
Por um segundo vou fazer minha serenata desse lado da janela. Por alguns dias vou manter a batucada, tanto enquanto a gente zela e vela. Para que toda pessoa dê um jeito, que não perca seu direito de encher a sua panela. Para que qualquer pessoa seja parte, que se tenha saúde e arte pra gozar da vida bela.
Bien sûr, on se demande ce que vient faire là cet extrait de Carmen et cette samba brésilienne. Eh bien, c'est du temps de confinement dont nous parlons là. L'Opéra de Lyon qui avait eu, comme beaucoup d'autres initiatives, l'idée de faire jouer ces musiciens tous ensemble, chacun chez soi. C'était un film très joli qu'on peut retrouver d'ailleurs, beaucoup d'humour, un effet visuel très réussi. Et cette samba du confinement à l'autre bout du monde, Hervé Théry, même intention.
Même chose, c'était des gens aux quatre
coins
du Brésil.
Ce sont vos choix, Alain et à l'autre, Catherine Biaggi, Hervé Théry.
Qui étaient chacun chez eux et qui ont joué tous ensemble. Et on a l'image, effectivement, d'une mosaïque d'images de chacun apportant sa voix, sa guitare, son pandeiro. Chanson de la quarantaine, mais chanson d'espoir.
Ce que décrivait Emmanuel Vigneron, je vous voyais.
Oui, je suis désolé de passer de l'espoir de la quarantaine à la douche froide, mais les ingrédients qu'il décrivait, moi, ça me fait penser irrésistiblement à l'Amazonie. Forêt tropicale, pleine de biodiversité, soumise à une agression, à la déforestation, et on mange des viandes de chasse. C'est ça. Il y a quelques années, j'étais à Manaus, la ville était agitée parce qu'il y a le principal centre de lutte de formation de l'armée brésilienne, la guérilla en forêt. Et quelques jours auparavant, une patrouille était revenue d'un temps de terrain où ils avaient chassé et mangé des singes, et ils sont tous morts. Tous. Le lieutenant, les deux sous-officiers, ils sont tous morts, ils ont pris un virus mortel, qu'on n'a jamais su ce que c'était. Donc dans la merveilleuse biodiversité de l'Amazonie, il doit y avoir quelques Ebola qui nous attendent.
Ah oui.
Et donc il serait très prudent de ne pas aller trop traîner par là. C'est
ah
la
oui,
recette
dit.
Parfaite.
Ah oui, dit Emmanuel Vigneron qui est avec nous en duplex. France Bleu et Rouge, je voudrais qu'on garde encore un petit peu de temps, le reste est la fin de l'émission, pour revenir sur la question des espaces ruraux. Alors on l'a beaucoup entendu ici en Europe, beaucoup en France, les espaces ruraux sont davantage protecteurs. Là encore, il y a un article auquel on pourra se reporter, une corrélation, il y aurait entre une faible densité et une faible surmortalité. Pourtant, un lien qui, d'après vous, vous êtes plusieurs à le dire, à le penser, ne résiste pas à l'examen de cartes à différentes échelles. Le virus a quand même réussi à pénétrer dans ces territoires. Est-ce qu'on est dans une réalité fantasmée avec des vertus formidables, protectrices, se mettre au vert, sans jeu de mots, ne serait pas si efficace que ça à l'arrivée?
Jusqu'à un certain point, oui, parce que statistiquement, et j'ai une carte que je vais vous montrer devant le micro pour vos auditeurs, qui montre qu'effectivement les régions les moins touchées au Brésil sont les régions rurales, simplement parce que la diffusion se fait moins, qu'il y a moins de relations, mais elles finiront par être touchées, puisqu'il n'y a pas d'endroit qui soit complètement isolé, et donc ça va jusqu'à un certain moment. Mais après, ça se retourne, et comme vous le disiez en début d'émission, les régions rurales sont aussi les moins bien équipées une fois que le virus est arrivé. Donc si on peut mettre de la distance, c'est très bien, mais ça ne suffit pas toujours.
Oui, quand on voit les lignes se dessiner, il y a ce fameux axe, hein, ne serait-ce que pour la France, je crois, hein, qui va justement de Mulhouse, dont nous parlions, en descendant vers le sud. Et puis, à l'ouest, ça s'est plutôt bien passé, à l'ouest de cette ligne-là. Et il y a aussi cette ligne européenne également, qui est pratiquement la même, et liée, là encore, au réseau de communication, mais pas seulement.
Non, ça finit par réactiver les lignes de force de la géographie, c'est aussi pour ça.
Oui, sur les espaces européens, ce sont les espaces de forte densité, les espaces bien connectés qui vont entre eux et dans lesquels il y a de la circulation qui vont de la Lombardie, Vénétie, jusqu'à l'Europe rhénane, l'Est français et le bassin de Londres. Voilà, on a là une image pour faire une référence grâce à Roger Brunet et l'invention de ce qu'il a appelé la banane bleue et qui est une expression qui a fait florès. Hein. On sait la force des images, la puissance des images. Et ça aussi, ce sont des territoires de diffusion. Mais néanmoins, il faudrait pas opposer pour autant les territoires. Et je pense que si on veut être un tout petit peu prospectif, et pour faire le parallèle avec ce qu'évoquaient les chansons, et c'est la raison pour laquelle Hervé Théry et moi avons choisi un peu la même idée, c'est-à-dire que par-delà la souffrance, par-delà les difficultés, les populations se rassemblent. C'est exactement ça, elles se sont rassemblées pour offrir de la musique pendant le confinement, et pour être plus fortes. Eh bien, on peut faire un parallèle avec de la coopération territoriale. C'est là-dessus qu'il faut s'interroger, plutôt que d'opposer ceux qui ont fui les métropoles juste avant le confinement pour passer le confinement dans leur résidence secondaire, ce que l'on peut comprendre. Ce sont aussi des habitants des territoires dans lesquels ils résident de manière temporaire. Plutôt que d'opposer les territoires, les petites villes, les villes moyennes aux grandes métropoles, inscrivons-nous dans une prospective de coopération interterritoriale entre la métropole et ses espaces environnants. Je pense notamment à tout ce qui a été évident pendant le confinement, c'est-à-dire la réflexion sur l'approvisionnement des métropoles à travers l'agriculture urbaine. C'est pas l'agriculture urbaine qui nourrit la population des villes, mais c'est quand même un signe. Les circuits courts, les complémentarités avec les espaces ruraux environnants, voilà des pistes si on veut dessiner des futurs souhaitables qui sont devant
nous. La densité atteint quand même assez vite ses limites. Bien sûr, les régions denses, on l'a largement dit, sont plus touchées que d'autres. Et pourtant, il y a beaucoup d'exceptions. L'Allemagne, par exemple, qui a une densité moyenne de 132 habitants au kilomètre carré, s'est trouvée moins touchée que l'Espagne, qui a une densité beaucoup plus faible. Il y a des phénomènes comme ça que l'on peut observer. Ce qui veut dire que la densité n'est pas le seul critère. Il y en a beaucoup d'autres. Les conditions de l'habiter, la cohabitation. On a dit, par exemple, qu'en Italie, peut-être, et en Espagne, peut-être était-ce parce que les personnes âgées vivaient auprès de leur famille, qu'elles avaient peut-être été plus vite et plus fortement touchées. À l'inverse, dans certaines zones peu denses, on dit que les EHPAD sont peut-être moins bien organisés ou que le personnel va d'un EHPAD à l'autre, propageant peut-être les maladies. C'est complexe tout ça, Hervé Théry.
Oui, la densité, ça dépend à quelle échelle on la calcule. Si vous prenez la densité moyenne du Brésil, vous allez trouver une chose. La densité moyenne de la France, pareil. Après, vous refaites le calcul à l'échelle du département, puis de la ville, puis du quartier, puis du logement. Et donc, on peut être très densément à l'intérieur d'un logement, dans un quartier moins dense. Il faut déjà bien le recalculer, savoir de quoi on parle. Et puis après, il y a effectivement les attitudes sociales, les façons de se comporter, les façons d'être, les niveaux de revenus. C'est désolé de rappeler ce phénomène-là, selon qu'on est plus ou moins, on a une salle de bain ou pas, qu'on peut changer ses vêtements souvent ou pas, qu'on peut s'acheter des masques ou pas. Donc, c'est vraiment une combinaison de densité presque fractale à plusieurs échelles et des comportements humains.
Faire des territoires ruraux le rempart absolu sanitaire, écologique, donc ça vous paraît aux uns et aux autres un peu rapide. Emmanuel Vigneron, pour conclure.
Le monde rural, il n'existe que parce qu'il y a des villes. Et les villes n'existent que parce qu'il y a des campagnes. C'est une grande banalité, mais vous avez évoqué Roger Brunet. On pourrait évoquer d'autres grands géographes qui se sont penchés dans la génération d'avant nous sur les relations ville-campagne. Donc la campagne est un rempart illusoire à la progression de l'épidémie. On le sait depuis des siècles. En plus, il y a d'autres problèmes qui pourraient se poser et qu'on a un peu passé sous silence. C'est le sentiment anti-urbain dans les campagnes profondes qui peut se développer. J'ai entendu, moi, des gens des campagnes dire « Ah ben, ils sont là, et puis après, ils s'en vont, puis ils nous laissent l'épidémie, en gros. » C'est plus profond, mais il y a comme un risque de fragmentation sociale au lendemain d'une épidémie. Le monde d'après, ça peut être un monde fait de plein d'oppositions aussi. Donc c'est une chose à laquelle il faut réfléchir, contre laquelle on peut s'efforcer de lutter. La géographie, elle a beaucoup à dire pour faire connaître aux autres les autres, pour montrer les liens qui nous unissent par-delà les distances, et plein d'autres choses comme ça. Et encore une fois, l'idée que je veux dire, c'est que la géographie, l'histoire, elles ne doivent pas prétendre faire de la médecine dans le cas d'une épidémie, ce n'est pas leur boulot, mais elles peuvent apporter des éléments d'information que beaucoup méconnaissent. Ce qu'a dit Hervé Théry des évangélistes au Brésil n'est pas nécessairement connu de tous les médecins qui se sont penchés sur l'épidémie au Brésil. C'est aussi le propre du géographe que d'avoir la mémoire des lieux et des espaces.
Et avant de vous quitter, tous les trois, questions à Catherine Biaggi. Être né quelque part, c'est l'indicatif que nous entendons ici. Cela a-t-il un sens très fort pour vous ? D'où êtes-vous né ?
Alors, moi, je suis d'une vallée alpine, une très belle vallée, où une partie de mes ancêtres étaient maîtres de forge. C'est la vallée du Grésivaudan, entre la Savoie et Grenoble, entre le Savoie et Dauphiné.
Et pour vous, c'est important de venir de là ?
Oui, mais je suis d'ailleurs aussi.
Emmanuel Vigneron, être né quelque part ?
On est, comme a très bien dit Madame Biaggi, on est de partout et de nulle part. Quand on est géographe, bien sûr, on a des racines, un endroit qui est le pays de son cœur. Mais a priori, c'est quand même qu'on a une ouverture au paysage. On est sensible à la beauté du monde en beaucoup d'endroits du monde. Moi, mon cœur, il est là où il y a l'humain.
Hervé Théry.
Moi, je vais citer quelqu'un qui n'est pas un géographe, mais qui avait déjà trouvé la solution. C'est Alphonse Allais qui a dit qu'il faut construire les villes à la campagne, tout simplement. Mais ça veut dire que peut-être par le télétravail et par les réseaux, on peut peut-être se réorganiser autrement. On peut citer aussi sur le terme de distance. Ambrose Bierce, dans le dictionnaire du diable, distance, la seule chose que les riches soient prêts à donner aux pauvres, pourvu qu'ils la gardent. Garder leur distance.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Je renvoie ce numéro des Géoconfluences qu'on peut trouver en ligne. On va évidemment mettre toutes les références sur notre site. Beaucoup d'articles. Nous avions ici les trois auteurs qui se sont gentiment chargés de nous parler des autres. Mais reportez-vous à ce travail tout à fait riche. Merci à Anne-Laure Chanel qui réalise l'émission ce soir en compagnie de Bernard Laniel. Merci à eux. Et bien sûr Sandrine Chaperon, Catherine Donnet qui vont assurer cette documentation et nourrir notre site. N'hésitez pas à y aller. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous irons à l'horizon des migrations. Très bonne soirée à tous. À jeudi prochain.